bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint-Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Dans toutes les études que j'ai pu faire à propos de l'histoire comparée des religions et des textes fondamentaux de ces religions du monde, de ces spiritualités, de ces grands mouvements de l'esprit qui ont traversé l'univers depuis que le premier Bing Bang de la création a résonné, je n'ai rencontré, compris, lu, peut-être y a-t-il d'autres textes que j'ignore, où Dieu, le Créateur, et quel que soit le nom qu'on lui donne, ni la forme qu'on lui prête, soit tellement à la poursuite, dirais-je, de sa créature préférée, l'homme. C'est peut-être la grande faiblesse de Dieu dont parlait peut-être le père Varillon. Quand on emploie l'expression du genre « avoir une faiblesse », « ah, j'ai quelques faiblesses »,« ah, j'ai une faiblesse pour le chocolat », eh bien, les textes que nous lisons de Luc, et surtout ce chapitre 15 de l'enfant prodigue, qu'il faudrait appeler d'ailleurs le père admirable, nous apprennent que Dieu a une faiblesse pour l'homme, et que c'est sa grande faiblesse, parce que chez Dieu, quoi qu'il a, quoi qu'il soit et quoi qu'il est, c'est toujours éternel. Je dirais que Dieu a une faiblesse éternelle pour l'homme. Alors ça nous donne une force, je le disais déjà la fois dernière, et une espérance, en tout cas ça me donne à moi qui vous parle, une force et une expérience incroyable. Oui, le mot même incroyable, parce que c'est pas croyable ce truc, qu'un Dieu puisse avoir une faiblesse éternelle pour l'homme. Je ne me lasserai jamais, cher auditeur, de répéter cette chose-là, parce qu'elle vaut pour moi comme elle vaut pour vous, comme elle vaut pour chacun. Et c'est pour ça que cette histoire est paradigmatique, c'est-à-dire qu'elle est exemplaire. Elle est exemplaire dans sa première partie du fait que l'un ou l'autre d'entre nous, beaucoup depuis que l'homme existe, s'éloigne pour des raisons qui sont les siennes de Dieu dans son existence, dans la façon qu'on a de se le représenter, bref, dans sa négation. Peu importe, chacun a son chemin. Donc ça, c'est exemplaire. Le garçon qui décide de ne plus considérer son père, parce que prendre son héritage du vivant de son père dans le droit juif de l'époque, c'est le considérer comme mort, donc soi-même comme étant orphelin. Ça arrive à tout le monde et à quelques degrés que ce soit. Ce qui n'arrive pas toujours, malheureusement. Mais alors pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est le mystère même de la relation avec Dieu. Qu'il n'y ait pas cette opportunité du retour. Alors ici, elle est paradigmatique en ce sens que on nous rapporte le retour de l'enfant prodigue. Mais de l'autre côté, elle est aussi exemplaire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pense qu'il a été fidèle, qu'il est fidèle à Dieu, pour ce qui nous touche ici à RCF, le bon catholique pratiquant, le catholique romain qui va à la messe tous les dimanches, qui donne le denier du culte. Quand j'étais gosse, je parlais du dernier du culte, je ne comprenais pas le mot « denier ». Donc quelqu'un d'irréprochable, de formidable, qui élève ses enfants, qui les a même mis à l'école catholique, et qui participe à toutes les campagnes de construction de nouvelles églises, eh bien, il semble que celui-là, un jour ou l'autre, d'après l'exemple, reprochera même à Dieu ce que reproche le fils aîné. « Jamais tu ne m'as donné ceci, cela. J'ai travaillé comme un noir, dirait-on maintenant. » Il paraît que les noirs travaillent beaucoup moins, messieurs. « Et tu ne m'as rien donné. » « Mais mon fils, mais tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce que j'ai est à toi, nous dit Dieu. » Vous rendez compte? Écoutez ça de Dieu, vous qui m'écoutez dans votre voiture. « Tout ce qui est à moi, te dit Dieu, est à toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Moi-même, je suis à toi. » Mais ne fallait-il pas, voilà, c'est l'autre pendant, lui aussi paradigmatique, ne fallait-il pas se réjouir parce que, vous le savez, ce fils qui était perdu est retrouvé, ce fils qui était mort est ressuscité, il est de renouveau à la vie. Et l'autre, le fils aîné, celui qui n'a rien à se reprocher, celui qui était formidablement conforme à la loi, aux lois, à tous les commandements de Dieu, de l'Église, du pape, de l'évêque et de tout le monde, dit, ben ne dit rien. D'après le texte de Luc, il ne dit rien. Que dirions-nous, nous, devant une telle situation?
Jésus était lancé, l'inspiration lui venait, c'est lui qui maintenant n'avait plus envie de s'arrêter. Il y avait une fois un homme très riche. Il avait un gérant depuis longtemps. Un jour, on vint lui rapporter que ce géant dilapidait ses biens. Le maître le convoqua aussitôt. « Qu'est-ce qu'on apprend à ton sujet? J'attends des explications. »« En tout cas, il faudra que tu te cherches une autre place. » Le gérant se mit à examiner sa situation. Que vais-je faire quand je serai mis à la porte? Travailler la terre, c'est trop fatigant. Mendier, j'aurais trop honte. Au bout d'un moment, une idée lui vint. Je crois que j'ai trouvé. Et quand j'aurai perdu ma place, il y aura même des gens qui me recevront chez eux. Vite, il convoqua tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il les reçut les uns après les autres. Mais ce fut pratiquement le même scénario avec chacun. Le client entrait dans son bureau. « Combien dois-tu à mon maître ? 100 tonneaux d'huile. Voici ton compte. Allez, assieds-toi et écris 50. Au suivant. Et toi, combien lui dois-tu ? 500 sacs de blé. Voici ton compte. Tu n'as qu'à écrire 80. » Et le maître ne manqua pas de faire l'éloge de ce gérant malhonnête pour agir si habilement. Quand ils traitent ensemble, les gens de ce monde sont bien plus habiles que les fils de la lumière. « Et moi je vous dis, reprit Jésus, n'hésitez pas à utiliser ce sale argent en faveur de vos amis, et quand il n'y en aura plus, on ne manquera pas de vous recevoir dans les demeures de l'éternité. Il n'y a pas de petite ou grande fidélité comme il n'y a pas de petite ou grande malhonnêteté. Si vous n'avez pas été fidèle en manipulant le sale argent, qui courra le risque de vous confier la gestion de la vérité? Vous n'avez pas été fidèle quand il s'agissait du bien d'autrui. Votre bien, qui vous le donnera? On ne peut pas servir deux maîtres. On va aimer l'un et rejeter l'autre, on va s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, un pharisien en effet en cache toujours un autre, les pharisiens donc réputés aimer l'argent se mirent à le railler. Jésus en profita pour leur crier. Vous vous faites passer pour intègre devant les gens, mais Dieu connaît votre cœur, ce que les hommes trouvent excellent et abominable aux yeux de Dieu. Le temps de la loi des prophètes a duré jusqu'à Jean. À présent, le royaume de Dieu est proclamé, et c'est à toute force qu'on y entre. Mais le ciel et la terre passeront plus facilement que ne disparaîtra en un seul détail de la loi. Puis on ne sait pourquoi, il ajouta en se retirant. « Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari commet aussi un adultère. » Jésus n'aimait pas faire de grandes théories. quand on lui posait une question trop abstraite, trop intellectuelle, ou même quand on ne lui en posait pas du tout, même qu'il sentait combien les gens étaient endurcis et réticents à se laisser toucher, à se laisser convaincre, il inventait sur le champ une histoire, une parabole. Et alors, il était tellement fascinant dans ces occasions qu'on ne pouvait faire autrement que de l'écouter, même si ensuite, comme ce soir... Au bout d'un moment, en effet, Jésus se retourna carrément vers les pharisiens présents et commença, à leur intention, la parabole suivante. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fine toile et qui, chaque jour, faisait bombance. Mais il y avait aussi allongé devant sa porte, couvert de pustules et de saletés, un pauvre nommé Lazare qui aurait bien voulu se nourrir des déchets de la table du riche. Et les jours passaient de la sorte. Le pauvre n'avait pas la force de repousser les chiens qui venaient lui lécher les plaies, et il mourut. Alors les anges vinrent le prendre pour le porter au ciel près d'Abraham. Le riche finit par mourir à son tour, et on l'ensevelit. Une fois chez les morts, le riche leva les yeux tandis qu'il était à la torture, et il aperçut de loin Abraham qui entourait Lazare de son bras. Alors le riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» Envoie Lazare tremper dans l'eau le bout du doigt pour m'en rafraîchir la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu étais riche sur terre, tandis que Lazare n'avait que des malheurs. Maintenant c'est lui qui est réconforté ici, tandis que tu souffres. D'ailleurs, mon pauvre, entre nous et vous, il y a un tel abîme qu'il est impossible, même si on le voulait, de passer d'ici chez vous et vice-versa. » Le riche supplia alors, « Père Abraham, je te prie d'envoyer au moins Lazare dans notre maison paternelle, car j'ai 5 frères. Il devrait leur dire ce qu'il en est pour qu'ils ne finissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répliqua, « Vois-tu, ils ont la loi de Moïse et tous les prophètes. Ils n'ont qu'à les écouter. » Le riche ne s'avoua pas vaincu, « Non, Père Abraham. « Mais si quelqu'un qui est mort va les trouver, ils se repentiront. » Alors Abraham eut cette phrase tandis qu'il esquissait le geste de s'éloigner. « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quand bien même un mort ressusciterait, ils ne le laisseraient pas convaincre. »
Voilà encore 2 paraboles. Qui sont... Je suis toujours étonné qu'on parle de la douceur de Luc, qui s'occupe des femmes beaucoup et qui rapporte des épisodes d'une grande tendresse. Mais il est très dur, Luc, sous l'apparence de contes bien ficelés, qui sont aussi importantes pour l'inconscient chrétien que les fables d'Ésope ou celles de La Fontaine, dont on se souvient à cause des personnages qui ont une véritable épaisseur. Ce ne sont pas uniquement des marionnettes comme Sartre dans son théâtre. Non, il s'agit de personnes avec une psychologie, des réactions. Autant la première que la deuxième des paraboles que nous donne aujourd'hui Daniel avec sa belle voix. Il s'agit de situations terribles de ce gérant qui va être renvoyé. Il s'agit de s'en tirer. Comment faire? Il s'agit d'autre part de celui qui est riche et qui meurt. Il s'agit de, si on a de l'argent, et il en faut, il s'agit de savoir ce qu'on en fait. Il s'agit de prendre une décision éthique. Mais nous y reviendrons certainement, puisque le temps est court. À la fois prochaine.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.